Une vie, une œuvre. Claude Lanzmann, né le 27 novembre 1925 à Bois-Colombes et meurt le 5 juillet 2018 à Paris à l'âge de 92 ans. Cinéaste engagé, Claude Lanzmann réalise des films et des documentaires à partir des années 70. Il tourne son premier documentaire, Pourquoi Israël, en 1972. En 1985, Shoah, documentaire de plus de 9 heures, consacré à l'extermination des Juifs en Europe dans les camps nazis et l'œuvre qui sera saluée par la critique dans le monde entier. Il poursuit avec Tsahal ou encore Un vivant qui passe. En 2001, ce sera le documentaire Sobibor, 14 octobre 1943, 16h, sur la révolte des prisonniers du camp d'extermination de Sobibor. Et c'est pour la télévision qu'il réalise le rapport Karski, puis Le dernier des injustes. Son parcours et ses engagements, il les raconte dans son livre autobiographique Le lièvre de Patagonie. Aujourd'hui, Anaïs Quien et Yvon Croisier vous proposent le portrait de l'homme qui reçut en février 2013 un ours d'or d'honneur au Festival du film de Berlin pour l'ensemble de son œuvre.
Il se sentait, il l'a dit plusieurs fois et ce n'est pas artificiel, il se sentait illégitime. Le nombre de fois que c'est arrivé dans des réunions des temps modernes, qu'il se met en colère contre un tel qui a fait ceci et cela, nous étions absolument sidérés. On disait, mais Claude, vous avez fait Shoah, quelle importance ça ? En fait, il était à fleur de peau en permanence. Et cette idée d'avoir une œuvre derrière lui, d'avoir fait énormément de choses qui ont énormément compté, qui comptent encore, ça ne le tranquillisait pas du tout. Claude, c'était vraiment un écorché vif. Il était fragile, Claude, c'était pas du tout un bulldozer. Au contraire, c'était quelqu'un d'extrêmement fragile. C'est pour ça qu'il était écorché. Quand il était en confiance, quand il était bien avec la personne avec qui il se trouvait, mais c'était l'être le plus adorable du monde. Vraiment.
Claude Lanzmann, un corps, une œuvre. Un documentaire d'Anaïs Quien, réalisé par Yvon Croisier.
Un jour, il m'a appelé. Je lui avais envoyé un texte qui n'était pas du tout de philosophie. Je ne le raconte pas du tout pour parler de moi, mais parce que ça dit quelque chose de lui. C'était un texte sur la tauromachie. Et là, il m'a appelé et il m'a dit « il faut qu'on déjeune ensemble ». Et il m'a dit très vite « venez à la revue ». Voilà, ça s'est passé comme ça. C'est les taureaux qui sont coupables et responsables.
Juliette Simon, qu'est-ce qui lui avait plu dans ce texte sur la tauromachie ?
Qu'est-ce qui lui avait plu ? Vous savez, la tauromachie, ça touche profondément à la vie, à la mort. Et je pense que Claude, pour moi, c'est la personne qui m'a fait le plus intensément sentir quelque chose qui relève de la vie et de la mort. Pourquoi ? Pas seulement pour le sujet sur lequel il a travaillé, peut-être pour sa manière d'être. Il avait quelque chose de tellement, comment dire, physique. Claude était son corps, complètement. Sa pensée, c'était vraiment une émanation de son corps. Jamais il ne s'abstrayait de son corps, si vous avez vu Shoah. Sa présence physique, tout passait par son corps. Et donc, je pense que, voilà, les articles de philosophie, c'était bien, il les publiait, mais quand on en est venu au vrai sujet, la vie, la mort, le crime, le sang, la beauté, voilà. Tout de suite, je sais pas, quelque chose s'est passé.
Comment avez-vous rencontré Claude Lanzmann, Laura Coppel ?
Alors, bon, il y a plusieurs choses. Peut-être la première chose qui n'est pas vraiment la rencontre avec Claude Lanzmann, l'homme, mais peut-être juste quand même, parce que ça m'étonne encore aujourd'hui, dire que j'ai vu Shoah juste au moment de la sortie. J'avais 17 ans et j'étais au lycée. Et je ne sais même pas comment est-ce que j'ai eu l'idée d'aller voir ce film. Je savais un peu de quoi il s'agissait, mais... et je sais pourquoi j'y allais, mais j'avais aucune idée de la puissance de ce que j'allais voir. Je me souviens que j'avais été voir la première époque avec une fille de ma classe, au 3 Luxembourg, il n'y avait pas grand monde dans la salle. Et devant moi, il y avait un monsieur d'un certain âge. Alors moi, j'avais 17 ans, donc un certain âge, je ne sais pas qu'est-ce que c'était. Qui s'est retourné et qui m'a dit « Pourquoi est-ce que vous êtes venu voir ce film ? Parce que moi, ça, je ne peux pas en parler avec mes petits-enfants. » Ça commençait bien. Et du coup, je ne sais pas, je me rappelle presque le visage de cet homme et je lui avais répondu « C'est pour ça que je suis venue. » Voilà. Et ensuite, j'ai vu le film, la première époque, et je suis retournée seule voir la deuxième époque. Et puis donc, les années ont passé. Et la vie a fait que donc j'ai commencé à travailler dans des salles de cinéma. Et puis, à un moment où je pensais peut-être faire autre chose, on m'a proposé de m'occuper du cinéma du Panthéon, où j'avais débuté bien des années auparavant comme ouvreuse. Et que venait de racheter Why Not Productions, qui était en train de produire Sobibor, 14 octobre 1943, 16h, donc le nouveau film de Claude Lanzmann. Et ce qui m'a, une des raisons qui m'ont poussée à accepter de m'occuper de la salle à cette époque-là, c'était qu'on m'avait dit il y a un nouveau film de Claude Lanzmann et il sortira au cinéma du Panthéon. Donc il a fallu assez vite que j'aille chez lui, puisque il travaillait toujours chez lui, tout était chez lui, les affiches, tout quoi. Ses copies de films, ensuite pendant des années, les copies de films étaient chez lui. Moi je me souviens après justement avoir trimballé dans ma voiture les 31 bobines de Shoah qu'on amenait dans les cinémas, etc. Et on n'avait pas eu trop le temps de parler avant, et puis il m'avait dit et puis j'avais osé à peine lui dire que j'avais vu Shoah justement quand j'avais 17 ans, et je lui avais raconté l'histoire de ce spectateur qui m'avait dit « Mais pourquoi vous êtes là ?» Et je sais pas, je pense que ça... Du coup, alors qu'on avait démarré pour des questions techniques sur un mode un peu âpre, voilà, il s'est rendu compte que... Son œuvre avait une importance extrêmement forte et ancienne pour moi. Et ça a dû sceller quelque chose, je crois. Voilà comment je l'ai rencontré. Mais je crois qu'il y avait quelque chose qui m'a tout de suite frappée chez Claude. C'est sa façon d'établir immédiatement un rapport direct avec les gens. Alors dans Shoah, c'est évidemment très complexe, mais moi, il y a un film que j'aime infiniment, qui est son premier film, qui s'appelle « Pourquoi Israël ?» que j'aime pour des tas de raisons, mais aussi parce qu'on y trouve déjà tout ce qui va faire le génie de toute son œuvre, dans une forme d'un certain point de vue qui est tout aussi profonde, mais peut-être moins grave ou tragique, irrémédiablement tournée vers la mort, que ça l'est dans Shoah. Et du coup, je trouve qu'on voit, par exemple dans ce film, à quel point il instaure immédiatement un rapport de personne à personne, qui l'engage lui totalement et qui du coup permet à l'autre d'être absolument qui il est, même au-delà peut-être de ce que la personne pense être.
Quand on ne le connaît pas, on le voit en grincheux, commandeur de la Shoah, mais c'était pas du tout ça Claude, c'était un type marrant, mais drôle, et qui aimait la bonne chair, les beaux paysages, la vie. Il aimait la vie, mais avec une fureur mais incroyable. Ça recoupe ce que je vous disais sur le fait qu'il était son corps. C'était une intelligence complètement physique. Ça lui donnait quelques complexes par rapport au philosophe, mais c'était ridicule, parce que l'intelligence, c'était lui qu'il avait. Il avait une intelligence... inattendu, sans un poil d'abstraction. Moi, l'intelligence de Claude, elle me fascinait. En tant que philosophe, je me disais, mais qu'est-ce qu'on est pauvre ? Qu'est-ce qu'on est abstrait ? Et il avait une acuité. Alors, ce qui le caractérisait en tant que directeur des temps modernes, dans les réunions, nous lisions les textes qu'on nous envoyait, on discutait, et Claude avait l'air absent, peut-être qu'il s'ennuyait, mais je n'en sais rien. Et puis tout d'un coup, il démarrait, on aurait dit un oiseau de proie qui voit un lapin ou un rat sur lequel il doit foncer. Il fonçait sur une page d'un texte ou sur un argument, et avec une acuité incroyable, il disait quelque chose qui changeait le cours de la discussion. Et il nous engueulait souvent. Cette espèce de manière de voir le cœur d'un texte que très souvent il n'avait pas lu, qu'il lisait pendant la réunion, comme ça, mais il lisait deux ou trois pages, et puis il disait ce qu'il pensait de ce texte, il tombait juste. Et c'était ça l'intelligence de Claude.
Juliette Simon, il y a quelque chose d'intrigant aussi chez Claude Lanzmann. Il naît en France en 1925, il adhère aux jeunesses communistes pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il est encore scolarisé. Il passe cette guerre en tant que très jeune résistant. Il ne passe pas cette guerre en tant que juif, d'une certaine façon. Quelle était sa relation à la judéité? Est-ce qu'il trouve un moyen de s'en emparer par Shoah, par sa découverte d'Israël, selon vous?
Je pense que c'est plutôt que ça. Mais ça restait abstrait. Parce que Claude n'est pas du tout d'une famille pratiquante ni qui cultivait les traditions. C'était une famille à la fois non assimilée. Sa mère était athée. Son père n'était pas un Français exemplaire, je veux dire, au sens où c'était pas des notables. Claude, il avait fort le sentiment de n'être pas de souche, je pense, quand il était jeune. Mais c'était quelque chose d'insaisissable. Alors, comment est-ce qu'il s'est saisi de ça? Bien sûr, par Shoah, par le savoir, par le travail. Mais je pense que ce qui est premier, c'est ce sentiment d'illégitimité qui vient de ce qu'il avait vécu, l'antisémitisme au lycée, l'antisémitisme d'entre-deux-guerres. C'est ça, son sentiment de la judéité. Réflexion sur la question juive de Sartre. C'est le texte qu'il a ancré dans Sartre. Et quelle est la thèse de ce livre? C'est que c'est l'antisémite qui fait le juif. Claude, c'est l'antisémitisme qui l'a fait se sentir juif. Bien sûr, il raconte que, au sortir de la guerre, à la libération, ben, l'antisémitisme n'avait pas disparu par magie. Pour un jeune juif, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait réapprendre à vivre dans ce pays qui avait toléré, au moins, ce qui était arrivé aux juifs. Et il raconte que c'est le livre de Sartre qui lui a permis de vivre en France et de pouvoir ne pas se sentir mal parmi les Français. Parce que Sartre dit « nous » et dans ce « nous », il inclut les Juifs. Les Juifs font entièrement partie de la communauté nationale. Et c'est quelque chose qui a été libérateur en 1946 quand ce petit livre est paru. Sartre brisait un silence. Et donc ce livre, dit Claude, pour les jeunes Juifs, il a été la vraie libération. Plus que la libération, ou autrement que la libération, une libération qui les concernait directement eux.
Et il rencontre Jean-Paul Sartre quelques années après.
Il fait quelque chose de très étrange. En 48, donc c'est quand même très peu de temps après la guerre, Claude part en Allemagne. C'est quand même très étrange quand même pour un jeune juif. Qu'est-ce qu'il va faire en Allemagne? Il n'a pas l'air de très bien savoir lui-même. La curiosité, le fait qu'il était fasciné par la philosophie et que c'était la terre des philosophes, l'Allemagne, le fait que son ami Michel Tournier y était avant lui, mais Michel Tournier, il était d'une famille de germanistes, lui, il était français, c'est beaucoup plus normal. Claude va retrouver son ami et va faire connaissance de l'Allemagne à Berlin, là où s'est décidée la solution finale, en pleine guerre froide, en plein blocus aérien, et il devient lecteur de français à la Freie Universität de Berlin. C'est très bizarre. Je veux dire, lui, il aurait pu faire comme Jean Kelevitch et dire bah, « Je ne mets plus les pieds dans ce pays, je n'apprendrai jamais cette langue. » Claude a directement appris l'allemand. Tout ça est très étrange. Et alors, pour en venir à sa rencontre avec Sartre, une fois qu'il est à Berlin, et il décide de passer à l'Est pour voir ce qui se passe. C'est complètement interdit. Et il écrit un reportage qui s'intitule, je crois, « L'Allemagne de l'autre côté du rideau de fer ». Ce reportage est publié dans Le Monde et Sartre le lit. Et Sartre trouve ça très bien et il veut connaître Claude. Et bon, ils se rencontrent et Claude, très vite, entre au temps moderne. Ça s'est passé comme ça.
Qu'est-ce qu'on sait, Anna Dvorka, de l'histoire personnelle de Claude Lanzmann avec la Seconde Guerre mondiale?
On sait pas mal de choses. On sait ce qu'il a raconté dans le livre de Patagonie. On sait aussi ce que Simone de Beauvoir, qui a été sa compagne pendant une dizaine d'années, je crois, a raconté dans La force de l'âge, me semble-t-il. Donc on sait pas mal de choses. Mais si un historien voulait écrire une biographie de Lanzmann, il serait obligé de tenter de vérifier ce qu'a été sa guerre, c'est-à-dire quelle a été exactement la consistance de sa résistance, comment sa famille a réussi à échapper à la persécution. Donc il y aurait effectivement un travail de biographe. Est-ce qu'il est très intéressant? J'en suis pas certaine dans le cas de Lanzmann. Ce qui est certain, c'est que quand on lit Simone de Beauvoir, elle raconte qu'il était réveillé tous les nuits par des cauchemars. Donc la certitude, c'est que la période de la Seconde Guerre mondiale, de la persécution des Juifs, l'a marqué au plus profond. En 45, il a 20 ans, hein, il est né en 25. Il assiste, comme tout à chacun, à ce moment médiatique qui est celui de l'ouverture des camps par les Alliés, du déferlement des images, et un jeune homme de 20 ans ne peut être que profondément marqué par cette découverte des camps, et très probablement se poser aussi des questions sur sa judéité.
Corinna Koolmees, comment avez-vous rencontré Claude Lanzmann?
Je venais de voir Pourquoi Israël, et ça m'avait énormément plu. Et puis, bon, il y avait une fête chez un ami, et je savais qu'il allait venir. Et donc, quand il est arrivé, bon, je me suis adressée à lui en hébreu, en pensant qu'il ne connaissait pas l'hébreu, mais il m'a immédiatement corrigé mon français. Et puis le lendemain, cet ami m'a dit, tu sais, Claude Lanzmann m'a appelé pour avoir des renseignements sur toi. Bon, très bien. Puis un jour plus tard, il était devant ma porte. Bon, moi je l'ai fait rentrer et il m'a dit, moi je veux faire un film sur l'Holocauste, parce qu'à l'époque, le mot Shoah est venu finalement avec lui. Hein. En France, c'était inconnu. Donc il m'a dit, je veux faire un film sur l'Holocauste. Et je veux le faire à la hauteur de l'événement. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Alors je lui dis, oui, je crois. Alors à ce moment-là, il m'a dit, bon, tu laisses tout tomber, parce que pour gagner ma vie, je travaillais à l'AFP à cette époque. Il m'a dit, moi je pars pour Israël maintenant, mais je te donne une liste de lectures. Et puis, bon, quand je reviens dans 2 mois, on commence à travailler ensemble.
Et vous avez été convaincue tout de suite?
Immédiatement. Même quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, oui, c'est l'homme qu'il me faut. Vous comprenez, j'ai été élevée en Allemagne, je suis née en 48. Donc, l'histoire de la Shoah, c'était quelque chose qui était dans mon esprit comme une immense question, quelque chose que je n'arrivais pas à saisir ni à comprendre. Parce que quand on est en Allemagne, soit on se détourne en disant que c'est trop horrible, ou bien, oui, on plonge dedans, hein, on ne peut pas faire autrement. Hambourg était encore quand j'étais un enfant, c'était en ruine. Hein. Et on me disait, va pas dans les ruines parce qu'il y a des mines. Donc la guerre était très présente. Et même, par exemple, quand il y avait la lune la pleine lune et la lune était rousse, les gens disaient « la guerre va recommencer ». Et je le croyais. Je le croyais naturellement. Donc j'imaginais qu'il y avait des armées partout et que tout allait recommencer, que tout allait être horrible. Bon.
Et ça se passait quand? Quand est-ce que vous l'avez rencontré, Claude Lanzmann?
Fin 73. Et puis bon, en fait, les deux mois sont passés et pas de Claude. Et puis 3 mois, donc je commençais à me poser des questions. Parce que... Et finalement, bon, au bout de 4 mois, il est revenu. Et puis il m'a dit, bon, c'est bon, en fait, il y avait des graves problèmes d'argent, parce que des problèmes d'argent, il y en a eu tout le temps sur Shoah. Et puis là, on a commencé à travailler. Au début, on a vraiment défriché le terrain. Hein, c'est-à-dire, on a essayé de rassembler un maximum de matériel. On avait des dossiers partout. Moi, j'ai passé 2 mois à Rome, au Vatican. Finalement, on ne l'a pas filmé parce que Claude a fini par se concentrer uniquement sur la destruction. C'est pour ça qu'on a tourné autour de 302 heures. Et puis, bon, le film est déjà immense, hein, il fait 9 heures. Et puis, par rapport aux 300 heures, on a fait des interviews préliminaires, certainement 1000 ou 1500. Donc, juste pour que vous ayez une idée, on a fait donc à peu près 4 ans de travaux préliminaires. Et ensuite, pour travailler des témoins. Et puis, une fois qu'on les avait trouvés, évidemment, on cherchait à les convaincre d'être tournés.
J'ai rencontré par la personne qui m'a formée à la sortie de l'IDEC, qui s'appelle William Lubchansky, dont j'ai intégré l'équipe en 76, et qui m'a proposé de le suivre sur le tournage de Shoah. C'était un travail en Super 16. J'étais jeune assistante et Willy s'est dit « bon, c'est très bien, je l'emmène ». Et j'ai eu cette chance qui est tout de même incroyable, c'est de suivre donc Willy pendant les deux ans du tournage de Shoah.
Vous êtes vraiment très jeune à ce moment-là, vous avez une toute petite vingtaine. Caroline Champetier, assistée à ces enregistrements, à ces tournages, à ces témoignages, ça n'était pas très commun à l'époque. Comment vous l'avez vécu?
C'était d'autant moins commun que, autant Lubchansky avait une histoire, puisqu'il était donc d'origine juive russe. Son père avait disparu à Auschwitz, il y avait une histoire. Juive. Moi, non. J'étais ce qu'on a coutume d'appeler une goye, une petite goye. Il y avait des choses que je comprenais et d'autres que je ne comprenais pas, hein, qui ne s'imprimaient pas. Et je dois dire qu'avec Claude, finalement, je trouve que j'ai toujours eu un train de retard. C'est-à-dire que j'ai compris les choses, non pas forcément pendant, mais après. C'est-à-dire que sur un tournage de 2 ans, où on travaille sur 4 ou 5 pays, le travail du réalisateur, du metteur en scène, vous ne le percevez pas dans son amplitude. Vous voyez quelqu'un qui a des dossiers sous le bras, qui est soit très nerveux, soit moins nerveux, qui passe énormément de temps à poser des questions avec une précision absolument redoutable. Donc vous comprenez la précision. Vous ne comprenez pas forcément la somme de travail qui a préexisté. Ça, c'est quelque chose qu'on comprend au fur et à mesure des conversations. Et puis, surtout le jour où j'ai vu le film, revu le film, parce que c'est tout de même un film que je dois avoir vu, je sais pas, une dizaine, une quinzaine de fois, et où là, l'immensité de l'engagement de Claude m'est apparue. Claude n'était pas forcément quelqu'un qui avait besoin de la compréhension de ses collaborateurs. Il avançait avec une sorte de détermination qui était la sienne. L'idée n'était pas de faire de la pédagogie, hein. Qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, l'idée était de le suivre, de l'aimer, de l'admirer. Voilà, certains metteurs en scène sont comme ça. Ils n'ont pas forcément besoin d'un rapport d'intelligence, mais d'un rapport de confiance. Et voilà, il l'avait avec Lubchansky, bien sûr. Lequel Lubchansky l'avait en quelque sorte formé au cinéma, parce que c'était le premier opérateur qui avait travaillé avec lui sur Pourquoi Israël. qui fait qu'il a compris ce que pouvait être un plan et ce que l'aventure d'un plan pouvait donner à un film.
Alors justement, Caroline Champetier, vous êtes directrice de la photographie. À l'époque, vous êtes assistante, mais quelle était l'intention sur ce que devait être l'image de ces témoignages, de ces entretiens qui allaient constituer le film Shoah?
J'ai pas l'impression que c'est quelque chose sur lequel Loubchansky et Claude aient discuté. Claude est quelqu'un qui ne... C'est pas du tout un metteur en scène qui tend le bras et qui vous montre des choses et qui fait un cadre avec la main, etc. C'est le corps de Claude. Et c'est sa présence aux choses qui fabrique quelque chose de la force, la puissance des plans, etc. On remarque que dans Shoah, il est totalement engagé, puisque la plupart du temps, il est dans les plans. Ou s'il n'est pas dans les plans, il est en rapport totalement direct avec le plan, puisque la parole, c'est vraiment lui qui fait de la maïeutique et qui accouche de la parole des témoins. Donc, je ne suis pas sûre qu'ils aient, je dirais, caractérisé cette image. Mais il y avait une sorte de présence aux choses, à la nature et aux personnes, qui fait que quand on arrivait quelque part, on était dans le décor de cette personne, et que assez rapidement, quelque chose se mettait en place où Claude et la personne devaient avoir une sorte de confort et d'évidence de rapport qui fasse que la caméra était le troisième point du triangle. Mais la chose la plus importante, c'était Claude et le rapport avec la personne. Quand on revoit Shoah, la présence de Claude à ce que disent et formulent ces gens est très impressionnante. Moi, je le décris maintenant parce que je l'ai compris, et d'avoir vu le film et d'y avoir en quelque sorte réfléchi. Mais c'était instinctif de la part de Claude. Il y a énormément d'instinct chez Lanzmann.
Tout ce film est un corps à corps. Tout ce film est un corps à corps de lui avec ceux qu'il interviewe, avec nous spectateurs. Il nous prend à la gorge. Arnaud Desplechin disait ça. Il nous force à nous interroger sur notre position de spectateur. C'est vraiment un corps à corps. Et le plus profondément, je pense que c'est un corps à corps de lui avec le corps de quelque chose qui est immonde, innommable, et qu'il veut capturer, et qu'il n'arrive pas même à nommer. Pour lui, c'était la chose, avec une majuscule, la chose. Après, il trouve un titre qui, étrangement, phonétiquement, consonne avec ça, chose, Shoah. Mais voilà, c'est capturer cette chose, la traîner jusque devant nous, spectateurs. C'est ça qu'il fait, au présent.
I was a barber for quite a number of years. And some of them, they knew me, like from people from Czechoslovakia and from other places. So naturally, they chose me, and I selected some more barbers, which I know of them. And we got it together.
Professional barber.
Official, yes. We got it together. We're waiting for the order. And the order came to go with them, with the Germans. They took us in to the guest chamber, to the second part of the camp in Treblinka.
it was far from the first part.
It was not too far, but it was all covered with gates, barbed wires, and trees covering the gate. That nobody should see there is a gate or there is a place going in to the gas chamber.
Is it what the Germans call the Schlauch?
No, the Germans, what they call, like going to road to the heaven.
Himmelweg.
Himmelweg, yeah, the road to the heaven.
Pour Bomba, ce coiffeur des camps qui devait couper les cheveux de ceux qui allaient être tués, vous étiez là, Caroline Champetier?
Bomba, oui, il le rencontre à New York, je crois. Mais surtout, il le pourchasse, parce que la deuxième fois qu'il vient à New York, il ne le trouve pas. Il apprend qu'il a déménagé en Israël. Il va le chercher en Israël, et c'est en Israël que finalement il accepte, après avoir refusé, il accepte le rendez-vous. Ça s'est tourné sur plusieurs jours, puisque le premier jour, il doit penser qu'il y a une sorte d'insatisfaction. Il veut, et puis là, ça devient de l'instinct, parce qu'il n'avait pas prémédité ce décor du salon de coiffure. Il le décide le soir de l'entretien, quand on ne peut plus tourner et qu'effectivement il fait nuit. Il se dit, le lendemain, il faut reprendre ailleurs. Et donc, il demande d'ailleurs à Bomba lui-même s'il connaît quelqu'un qui a un salon de coiffure, s'il peut venir y tourner. Et je crois qu'on vient y tourner et que le salon de coiffure continue. Hein, parce que dans mon souvenir, il y avait des gens qui se faisaient couper les cheveux ou raser ou je ne sais quoi. Et moi, j'étais là à charger mes magasins et à les apporter à un rythme un peu frénétique parce que, enfin, c'est cette fameuse histoire où il arrête le magasin et il dit « rechargez la caméra, je voudrais un magasin plein ». La caméra a une autonomie de 10 minutes. Et donc, à un moment donné, il sent que quelque chose, il y a une émotion ou quelque chose se brise chez Bomba et il demande un rechargement et c'est à ce moment-là qu'il tombe en larmes et qu'il a énormément de mal à continuer et que Claude le fait continuer à parler.
Il fallait que ce soit du présent.
Corinna Koulmas.
Il ne fallait pas que les gens se souviennent. Il ne fallait pas qu'ils aient un discours. Et c'est pour ça aussi que les questions sont précises, parce que ça déconcerte les gens. Si on dit oui, mais là et pas là, et pourquoi, et combien de mètres de là, et comment ça se fait que vous n'ayez pas fait ceci, et pas juste laisser le discours évoluer comme les gens ont déjà l'habitude. Hein. Mais la plupart du temps, il y avait peu de préparation avec les gens parce que justement, on voulait que ce soit de l'immédiat et du revécu. Donc, si on commence déjà par leur faire faire leur histoire, ben, ça ne va pas aller. Parfois aussi, quand la bobine s'arrêtait, parce que bon, à l'époque, c'était artisanal tout ça, hein, donc on se demandait, etc. Là, du coup, on était une douzaine avec toute l'équipe technique. Eux, ils ne comprenaient pas forcément la façon dont Claude interviewait. Ils trouvaient que parfois, il brusquait les gens. Il était obligé de le faire parce que bon, sinon, il n'aurait pas obtenu ce qu'il avait. Mais et c'est ça qui comptait pour lui. Hein, mais eux, ils trouvaient que bon, on aurait pu quand même arrêter. Et on voyait bien que la femme allait pleurer. Mais oui, parce qu'ils voulaient vraiment savoir. Hein, c'était pas le truc où on s'était dit, tiens, je vais le piéger de telle ou telle manière. Pas du tout, du tout. C'était vraiment le désir de pousser aussi loin que possible quelqu'un à revivre un passé douloureux.
Rudy Lieberman, vous êtes réalisatrice de documentaires et vous vous êtes intéressée aussi, comme Claude Lanzmann, à cette histoire des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Quelle est la trace, dans votre manière d'envisager votre cinéma, de Claude Lanzmann?
C'est même pas une trace, hein. C'est la statue du commandeur. Je veux dire, je suis presque advenue finalement au cinéma... sur la question de la destruction des Juifs d'Europe avec Claude Lanzmann, puisque quand Shoah est sorti, J'étais assez jeune, je devais avoir 13, 14 ans, 15 ans. Évidemment, pour des raisons familiales, j'ai été baignée hein, dans cette histoire. C'était pas une chose nouvelle pour moi. Et c'est très étrange parce que je l'ai vu, donc, je crois que c'était au 3 Luxembourg quand c'est sorti. Et le souvenir que j'en ai, c'est que j'étais seule dans la salle. En fait, évidemment, je n'ai pas pu être seule dans cette salle. Mais c'est comme, et c'est, je pense, une des puissances du cinéma de Lanzmann et de Shoah en particulier, c'est comme si tout à coup, on était seul avec Lanzmann et ses témoins.
Quel regard vous portez sur son attitude pendant les entretiens? Parce que il apparaît à l'image, on entend ses questions, il est extrêmement présent.
Oui, alors là, c'est encore quelque chose qui m'a frappé lors de la dernière vision. C'est son engagement total. Cette énième vision de Shoah, je vous parle d'il y a 3 mois, elle venait vraiment répondre à des questions théoriques que je me pose, c'est-à-dire sur la manière dont la parole surgit. Et il est évident pour moi que la manière dont Lanzmann vient chercher les gens, vient les attraper. Ça me fait penser aussi évidemment à Ophuls, hein. C'est-à-dire que vraiment pour moi, Ophuls et Lanzmann, même si c'est de manière très différente, mais c'est des gens qui disent une parole, elle est nécessairement adressée. C'est quelque chose qui se passe entre deux personnes. Alors là, en plus, chez Lanzmann, ce qui est fou, c'est qu'il y a en plus le traducteur, plus souvent la traductrice. C'est quelque chose qui engage le corps. Et ça, c'est fou, la question du corps chez Lanzmann. C'est un vrai corps à corps dont il s'agit extrêmement souvent. Il est très tactile. Il touche souvent les gens. C'est comme si Lanzmann portait avec lui tous ces gens. Comme s'il était Rudolf Vrba, Simon Srebnik, comme s'il était le coiffeur, comme s'il était Antek Zuckerman, etc. Et sa violence ultérieure, parce que moi, pour moi, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la violence, parfois de l'autoritarisme, qui m'était extrêmement désagréable. Et en même temps, j'ai vraiment, enfin, en regardant ces rushs, tout à coup, je me suis dit, mais en fait, il avait incorporé finalement ces êtres et il était leur représentant.
Vous allez nous les montrer alors, ces rushs?
Ben oui. Alors, d'abord, je vous raconte un petit peu. Donc, après la mort de Lanzmann cet été, j'ai revu Shoah. Et puis, j'ai été comme ça, errée en ligne sur le site, je crois, c'est le musée de l'Holocauste de Washington. Et puis, j'ai commencé à regarder un petit peu. Et j'ai notamment été regarder une interview. C'est l'entretien avec Kajik, alias Simcha Rotem, enfin Simcha Rotem alias Kajik, qui était un des membres de l'OJC, c'est-à-dire de l'Organisation juive de combat, c'est-à-dire un des acteurs de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Donc l'entretien se passe dans le musée, dans le petit musée du kibbutz, qui est un musée donc dédié aux combattants de l'insurrection de Varsovie. Et dans ce lieu, il y a une maquette. Il y a une maquette du ghetto. Et au départ, Lanzmann filme Kajik devant cette maquette, et la première chose qu'il lui dit, avec une extrêmement grande douceur, parce qu'on est habitué à dire Lanzmann, violence, Lanzmann, on est habitué à dire cette fameuse scène du coiffeur où il insiste tellement, ce qu'on oublie, c'est la douceur avec laquelle il insiste. Il commence comme ça, je sais bien que ça peut sembler complètement dérisoire de vous filmer devant cette maquette, mais c'est tout ce que j'ai à m'apporter, on va tenter de faire quelque chose. Et là, Antek acquiesce et lui dit oui, c'est dérisoire, mais on peut tenter de parler de quelque chose. Et il commence à tourner avec Simcha Rotem. Et on voit Antek Zuckerman qui arrive. Antek Zuckerman, c'est un petit peu une légende, puisque Antek Zuckerman, c'était un des chefs de l'OJC. Et c'est un homme avec sa femme qui a incarné voilà, la révolte des Juifs du ghetto de Varsovie. Et donc Zuckerman arrive. Et donc, on sent tout ce qui se passe, évidemment. Nous, dans la tête, on se dit, bah oui, il a quand même été le chercher, il a dû refuser, mais grâce à Kajik, Antek a accepté de venir, etc. Donc, Antek arrive de toute sa haute stature. Et Lanzmann lui dit, Antek, vous avez accepté de venir qu'on vous filme, mais j'ai promis que je vous poserai pas de questions. Et donc, je vous poserai pas de questions. C'est promis. Donc, on sent qu'il y a un deal derrière, qu'il veut bien être dans l'image, mais qu'il lui posera pas de questions. Et donc, l'interview redémarre avec le petit Kajik. Et là, ce qui se passe pendant, je sais pas combien, il y a peut-être 4, 5 bobines, C'est un truc complètement fou. Et cette folie, pour moi, c'est la folie de Lanzmann, c'est son génie, et c'est aussi tout ce qu'il a eu à surmonter pour faire ce film. Il y a tout à coup une bouteille d'alcool qui apparaît à côté de Antek. Donc on se dit, ah ouais, il est malin, Lanzmann. Il a été chercher un petit peu de cognac, parce que quand même, évidemment, que si Antek Zuckerman est là, il veut qu'il parle. Il veut lui poser des questions. Et Antek Zuckerman, qui est quelqu'un de très malin et qui en a vu d'autres, il lui dit, bon, je vois que tu es un très bon représentant de cognac, je vois que tu veux me faire parler. Il boit, et puis il commence un petit peu à parler de la vie dans le ghetto, etc. Et à un moment, il lui dit cette phrase, « Claude, si tu pouvais lécher mon cœur, tu tomberais empoisonné. » On sent que Lanzmann s'arrête, interloqué par la puissance, parce qu'il faut voir ça à l'image aussi, il faut voir la tronche de Zuckerman quand il dit ça. C'est ça qui recevait quand même, hein, Lanzmann, quand il allait chercher. Et puis ça continue. Antek dit, bon, mais maintenant j'arrête de parler, genre tu m'auras pas, en fait. Et c'est très intéressant sur la manière aussi de comment se construit un entretien. Un entretien, c'est un drame. Et encore plus là, c'est-à-dire que chaque parole, c'est une brûlure. À un moment, Zuckerman, qui n'arrête pas d'interrompre donc Kajik, dit à Lanzmann, oui, mais ça, il faudrait filmer le livre qu'a écrit ma femme, parce que c'est là qu'est le récit, et parce que c'est un récit qu'elle a fait que je lui ai arraché comme un chirurgien. Et là, Lanzmann, il a compris évidemment qu'on est dans un rapport de force, et qu'il a face à lui cet homme qui est tellement grand. Et il dit à la traductrice de lui dire, ma petite tragédie personnelle, c'est que je fais un film. J'ai besoin de visages humains pour raconter cela. Moi aussi, je fais un travail de chirurgien. Et là, Zuckerman lui répond, c'est très bien, vous faites un film et je vous félicite de le faire maintenant parce que dans 10 ans, vous ne pourrez plus le faire, on sera mort. Mais est-ce que vous pensez vraiment, et lui dit textuellement, que vous pouvez sauver quelque chose en faisant ce film? Et quand je vous dis, il lui dit cela, il lui dit avec un visage terrifiant. Vraiment avec un visage terrifiant. Et là, Lanzmann lui répond, je ne sais pas, mais de toute façon, je pense qu'on peut faire quelque chose. Je travaille comme un fou, comme un enragé à ce film, et je crois que je peux faire quelque chose. Et l'autre lui dit, je suis triste, je suis très triste, parce qu'il y en a qui écrivent des livres, mais nous, nous l'avons vécu. Et Lanzmann lui dit, moi, je ne fais pas de roman. Et l'autre lui répond, mais ça ne m'intéresse pas. Lanzmann lui demande, mais pourquoi ça ne m'intéresse pas? Et il lui dit, il y a derrière moi des millions d'êtres. Essayez de comprendre ce que ça veut dire de parler, de faire comme s'il n'était pas là. Et là, on comprend quelque chose. C'est-à-dire que Zuckerman ne lui dit pas simplement, vous n'y étiez pas, vous n'y arriverez pas. Mais il lui dit, parler, c'est aussi annuler la présence de ces millions d'êtres.
C'est les trahir.
C'est les trahir. C'est une forme de trahison. Et il lui dit, j'ai vu tout ça de mes propres yeux. Si vous y consacriez 48 heures de votre vie à m'interroger, vous n'auriez qu'un millième de ma vie. Fin de la bobine. Et la bobine suivante, on retrouve Lanzmann blotti comme un enfant dans les bras de Zuckerman. Et comme il était très grand, Zuckerman, évidemment, c'est comme un bébé. Et si vous voulez, quand j'ai vu cette sorte de tragédie en chambre, où sont posées en fait toutes les questions, c'est-à-dire la question de la possibilité de faire un film, de qu'est-ce que ça veut dire faire émerger cette parole qui est à la fois une présence et une absence, qui est à la fois une fidélité et une trahison. Et quand je l'ai vu contre Zuckerman, il y a beaucoup de choses que j'ai compris, c'est-à-dire qu'à la fois tout ce contre quoi il avait dû, la foi qu'il avait dû avoir en lui-même, aussi la nécessité des adoubements, c'est-à-dire il est comme adoubé finalement par Zuckerman. C'est comme un fluide, quand je vous parle d'un adoubement, il a reçu quelque chose de ces gens-là. Et donc, il y a quelque chose où il est devenu l'intransigeance, la folie, l'alcoolisme de Zuckerman. Et où il a dû témoigner de ça, même après le film Shoah. Mais je vais vous montrer
les images.
Chirurgien, chacun des détails pour la forcer à retrouver exactement la réalité, à la décrire dans ce chapitre.
Non mais dis Antek, que ma petite tragédie personnelle actuellement, c'est que je fais un film. Que j'ai besoin de visages humains pour raconter cela. Bon, mais que moi aussi, j'ai fait un travail de chirurgien et que je suis obligé d'avoir aussi une forme de cruauté.
Je suis obligé d'avoir une forme de cruauté.
Ça, c'est la conversation qui est entre les deux. Et ensuite, et là, on va regarder cette image. Antek le prend comme un enfant contre lui. Lanzmann se blottit. Et au bout d'un moment, Antek va se rendre compte qu'ils sont filmés. Et là, il y a de l'affolement parce qu'il dit « Non, je veux pas que ça soit filmé. »
Mata, mitzalem.
Tu es en train de filmer ? Lololo.
Claude Lanzmann. Rabbi Arshanim Shamati Alav.
J'ai entendu parler de vous depuis des années.
Hua Shamar Beishanim Al Chavoyotenu Shel Rabim.
Pendant de nombreuses années, vous avez
préservé des
expériences de
nombreux personnes.
Est-ce que vous avez la moindre idée de la façon dont il se concentre en un seul individu?
Mavet.
Qui concentre en lui la mort?
Mavak.
Le combat.
Milchama.
La guerre.
Atashikor.
Vous êtes ivre?
Non.
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 Quelles étaient les réactions au moment où Shoah est sorti en salle en 1985 ?
Shoah a été important dans le micro-milieu intellectuel. Ça n'a jamais été un film populaire. Quand il est sorti dans deux ou trois cinémas. Ça n'a pas été une ruée, il n'y a pas eu la queue. Si on compare avec un autre film sorti en salle, qui est Le Chagrin et la Pitié, il n'y a pas photo. Voilà.
Alors comment Anna Dvorka, le film Shoah et Lanzmann avec son film, comment Lanzmann parvient-il à créer cette histoire autour de son film, à savoir que c'est le premier et peut-être même à faire croire à certains que ce sera le dernier sur la question?
Alors, c'est quand même le premier, malgré tout. C'est le premier qui va raconter l'histoire de la destruction des Juifs d'Europe. Et c'est un film qui est tout entier au cœur de la destruction. En France, parmi ceux qui n'ont pas été tout à fait heureux de la sortie du film, il y a eu des anciens déportés, parce qu'ils n'étaient pas dans le film. Or, à la différence des survivants de la déportation, sont des témoignages de survie. Lui, il s'est mis au plus près de la machine de mort. Et ça, c'était réellement une novation. L'autre novation, c'est qu'il a choisi de ne pas mettre d'image d'archive et il a choisi la parole et les lieux. Alors, c'est pas tout à fait le premier qui a filmé les lieux comme ça. Quand on revoit Nuit et brouillard d'Alain Resnais, Alain Resnais a tourné à Birkenau. Donc, c'est pas le premier à avoir filmé des lieux. Mais c'est le premier à avoir, comme ça, mis uniquement en situation les témoins et les lieux. Donc, il y a quand même un effet sidérant de Shoah qui en fait un des très grands films. Maintenant, l'illusion de penser qu'il n'y avait rien eu avant et qu'il n'y aurait plus rien après, ça c'est une illusion de la toute-puissance de Lanzmann. Mais on peut comprendre cette toute-puissance quand on arpente pendant 10 années les paysages de mort et ceux qui ont vraiment survécu à la mort et qui ont donné la mort, parce que c'est ça aussi, peut-être qu'on a un sentiment de toute-puissance.
C'est un sentiment de toute-puissance par délégation, d'une certaine manière ?
Peut-être par délégation des morts, oui. Peut-être par délégation des morts.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de la première phrase de Shoah. Cette première phrase, c'est « L'action commence de nos jours à Chełmno, Pologne ».
Juliette Simon.
De nos jours. Ça s'est passé en 1942. Qu'est-ce que ça veut dire, ce présent, ce de nos jours ? Est-ce que c'est de nos jours quand nous tournons Shoah ? Est-ce que c'est de nos jours dans la salle de cinéma quand nous sommes en train de voir le film ? Est-ce que c'est de nos jours avant, en 1942, quand on a commencé à exterminer des Juifs dans des camions à gaz à Chełmno ? Qu'est-ce que ça veut dire, ce de nos jours, ce présent ? Et je pense que la volonté de Claude, sa pulsion profonde, c'était de faire que toutes ces acceptions du temps se fusionnent en une seule, qui est la présence même du film. Parce que qu'est-ce que c'est Shoah ? C'est pas du tout un film sur le passé, c'est un film au présent, c'est un film sur le présent. Et qu'est-ce que Claude veut faire ? Il veut pas du tout nous dire « plus jamais ça », il veut pas du tout faire un film sur quelque chose qui s'est passé au passé. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'image d'archive dans le film. C'est pas un film en couleur sépia, Shoah. C'est pas du tout un film qui braque le projecteur sur une séquence du passé. C'est une tentative qui réussit de nous rendre présent ce qui s'est passé. C'est vraiment de nous l'amener pour que ça nous empoigne. La Shoah, c'était pas avant, c'est maintenant. C'est maintenant et c'est là parce que Claude l'amène physiquement devant nous. C'est là dans le rire gras du paysan polonais, c'est là dans la larme furtive du coiffeur de Treblinka, dans sa voix qui tout d'un coup devient blanche, c'est là dans le tic au coin de la bouche de Yehuda Lerner, c'est là, c'est physiquement là. Et c'est ça le sens, à mon avis, de Shoah.
Qu'est-ce qu'on fait aussi du personnage public qu'il a développé, qu'il était d'abord, et qu'il a maintenu avec une grande vigueur pour défendre la mémoire de Shoah, des décennies après sa sortie, après sa diffusion, après la découverte de cette œuvre.
C'est une question très compliquée, parce que je me souviens quand j'ai lu le livre de Lanzmann, Le Lièvre de Patagonie.
Ruth Zilbermann.
Tout ce qui concerne Shoah, c'était à la fois incroyable à lire pour comprendre comment il avait fait. Et en même temps, il y avait un sentiment à la fin où Shoah, c'était Lanzmann, Lanzmann, c'était Shoah. Je veux dire, la Shoah. Et ça, évidemment, c'est quelque chose, pour moi, qui était un petit peu compliqué à avaler. Peut-être qu'il fallait cette folie, on l'a souvent dit, pour parvenir à faire ce film. Mais c'est vrai que c'est ce mouvement-là qui irrigue finalement ces positions publiques qui, moi, m'apparaissait de temps en temps, notamment par rapport à certains films ou à certains intellectuels qui ont tenté de réfléchir à cet événement, d'une extrême violence qui n'était pas justifiée. Notamment par rapport à des témoins, par rapport à des survivants qui n'étaient pas ceux qu'il avait interviewés dans Shoah et où je le trouvais parfois extrêmement violent et inutilement violent.
Donnez-nous un exemple.
Je l'ai vu dans une conférence s'indigner contre des réflexions de gens qui lui disaient « ben j'y étais », mais simplement il n'était pas à l'endroit où lui avait choisi de poser finalement sa caméra et son micro, c'est-à-dire au centre du processus d'extermination autour des chambres à gaz. C'était des gens qui avaient été déportés dans d'autres camps, qui avaient évidemment des vues complètement parcellaires et fragmentaires, mais c'est comme si lui, tout à coup, avait la vision total des choses et qui pouvait jeter d'un revers de la main ce qui n'était que parcellaire et fragmentaire par nature. C'est un processus que je peux comprendre, même s'il m'était désagréable.
Vous l'avez rencontré par la suite ?
Ah ben, j'ai rencontré à de multiples reprises, oui. Oui, oui.
Annette Vivorca.
J'ai rencontré à Washington quand on y est allé pour la mission Matteoli et qu'on a déjeuné chez l'ambassadeur qui était littéralement scotché parce qu'il a passé le déjeuner, c'était génial, hein, à raconter ses amours avec Simone de Beauvoir. Voilà, j'ai rencontré, je l'ai croisé à de très nombreuses reprises. Mais autant, à l'exception de Pourquoi Israël, je trouve ces films réellement admirables et vraiment importants, autant on n'avait pas forcément envie d'être avec lui. C'était un homme puissant, un homme pas forcément très tolérant, et puis un homme qui empêchait que publiquement, hein, chez soi on fait ce qu'on veut, hein, mais que publiquement on puisse faire vivre ce film suivant ce qu'on était au moment où on le regardait. Parce que il collait à son film et il en imposait toutes les interprétations. Et ça, c'était quelque chose qui rendait un débat sur Shoah, par exemple, pas possible.
D'ailleurs, là, pour le coup, il y a quelque chose qui dit aussi dans Le Lièvre de Patagonie, mais qui me semble, moi, absolument essentiel.
Laura Coppel.
Qui est que, lors de cette première projection de Pourquoi Israël, en octobre 73, la première projection, c'était au Festival de New York, avec le déclenchement de la guerre de Kippour, voilà, dont il apprend la nouvelle le matin même, je crois, dans sa chambre d'hôtel. Et lors de la conférence de presse, il y a une journaliste qui lui demande « Monsieur Lanzmann, quel est votre pays ? Est-ce que c'est la France ou est-ce que c'est Israël ?» Et il répond cette phrase que je trouve tellement magnifique « Mon pays, c'est mon film ». Et je trouve que si on entend cette phrase, vraiment, elle permet ensuite de comprendre énormément de choses. Et justement d'aller complètement, de balayer d'un certain point de vue un certain nombre d'opinions très caricaturales que certaines qu'on entend sur lui, quoi. Qui, moi, m'ont toujours étonnée, d'ailleurs. On disait, oui, il est intransigeant. Enfin, les coups de gueule. C'est-à-dire, oui, il avait des positions... évidemment viscéral parce que son œuvre est quelque chose qui lui était viscéral et pas seulement son œuvre, puisque précisément la Shoah était quelque chose qui était... C'est normal d'avoir un rapport viscéral avec cela et c'est normal de ne pas pouvoir supporter des choses que l'on juge inadaptées, voire indignes. Et du coup, c'est normal qu'on s'énerve souvent ou qu'en tout cas qu'on ait une position sans compromission. C'est plutôt bien, moi, je trouve. Il n'avait aucune peur de plonger dans une discussion qui pouvait parfois tourner à la polémique et être extrêmement vive. Je ne dirais pas qu'il en avait le goût, mais en tout cas, il n'en avait pas peur. Si on voulait, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont usé de ça, d'ailleurs, hein, à une époque, en le faisant venir et en sachant comment est-ce qu'on allait pouvoir un peu l'énerver. Et ensuite, ça ferait toujours bien d'avoir Claude Lanzmann qui s'énerve. Voilà. Mais lui, il n'avait absolument pas peur de tout ça.
Claude Lanzmann, Un corps, une œuvre, un documentaire d'Anaïs Quien, réalisé par Yvon Croisier, avec Juliette Simon, Corinna Koulmas, Caroline Champetier, Ruth Zilbermann, Annette Vievorka et Laura Coppel. Une vie, une œuvre, attachée de production. Pascaline Bonnet, coordination, Christine Bernard.
Une vie, une œuvre se réécoute et se podcast partout en allant tout simplement sur la page de franceculture.fr. Une page préparée, enrichie et élaborée avec amour par Pascaline Bonnet. Dans un instant, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.